Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. C'est un très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui, cher Denis Knopfler. Vous êtes donc titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques au Collège de France. Vous avez prononcé votre leçon inaugurale en avril 2004. Vous avez eu 70 ans l'an dernier, en 2014, et vous êtes donc devenu professeur honoraire. Du coup, nous avons entendu ces dernières semaines votre ultime cours parisien au Collège de France, où vous avez donc enseigné pendant exactement 10 ans. Je signale aux auditeurs de l'Éloge du Savoir que toutes vos leçons peuvent être écoutées ou réécoutées sur le site internet du Collège de France et qu'une grande partie est téléchargeable également sur le site de France Culture. Vous avez écrit d'innombrables articles. Votre dernier livre, La patrie de Narcisse, est publié aux éditions Odile Jacob. Vous faites partie des instances scientifiques les plus prestigieuses du monde et vous êtes couvert de distinctions internationales. Historien, archéologue, épigraphiste, Denis Knopfler est tout cela à la fois, mais plus encore, un enseignant. Telles sont les premières lignes de l'avant-propos du très beau volume de Mélange paru chez Droz qui vous fut offert en 2011 sous le titre de Philologos Dionysios, Denis le philologue. Ce nom est emprunté à une inscription d'Érythrée, cité très importante dans votre parcours et dont nous allons reparler dans cette conversation. Votre érudition est éblouissante, mais votre humour, votre esprit critique et votre flegme ne le sont pas moins. Bref, vous êtes un professeur passionnant. Merci Denis Knopfler d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons hélas trop brièvement revisiter chacun de vos cours et dans chacun d'eux les apports fondamentaux que nous vous devons et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une vision mieux ajustée du monde grec ancien. Alors, commençons donc, si vous le voulez bien, par le cours donné en 2004 et intitulé « L'époque de Lycurgue à Athènes, 338-322 avant Jésus-Christ ».
Chère Christine Goémé, d'abord grand merci pour votre accueil ici et plus encore pour tout l'intérêt que vous avez manifesté avec une fidélité admirable qui m'a réellement surpris moi-même pendant ces 10 années. Merci de tout cœur. Commencer par ce premier cours, oui, c'était en fait un essai, d'une certaine manière, un cours qui a été très bref, et peut-être vaudrait-il mieux, d'une certaine manière, rattacher ces quelques leçons sur Athènes au cours que j'ai donné de manière beaucoup plus intense et suivie pendant 4 ans à partir de 2010, si ça ne vous dérange pas. Mais pour moi, ça a été très important, ces quelques semaines d'enseignement, parce qu'il fallait que je m'habitue à un environnement tout à fait nouveau, sur un sujet qui m'était relativement familier, c'est pourquoi je l'avais choisi, avant de me lancer, si vous voulez, pour des opérations de plus grande envergure, quitte à revenir précisément sur Athènes, parce que ça n'était pas un petit sujet en réalité.
Bien entendu. Vous avez fait ce cours juste après votre leçon inaugurale,
voilà,
pendant les quelques mois qui restaient, semaines.
Tout à fait. C'est pourquoi si j'ai été 10 ans au collège, j'ai fait en réalité 11 cours.
Voilà.
Vous voyez, 2004-2014, ça fait vraiment une décennie complète avec 11 cours. Voilà. Alors, donc, dès l'année suivante et pendant 3 années, je me suis aventuré dans un domaine qui pouvait être un peu, peut-être jugé un peu rébarbatif pour certains auditeurs, dans la mesure où j'allais commenter pas à pas un long livre de Pausanias le Périégète dans un pays qui n'a pas la meilleure renommée du monde, puisque c'est la Béotie. Mais précisément,
c'était... les gens de Béotiens.
Voilà, on traite à tort d'ailleurs, parce que c'était un de mes buts que de montrer que derrière cette appellation, il y avait en fait un peuple tout à fait digne d'intérêt dans une région qui peut s'enorgueillir d'avoir contribué fortement à la culture grecque, à la musique grecque,
à
la poésie,
grec.
À l'art grec, hein, Pindar, le Thébain de Béotie, Hésiode lui-même, des grands poètes, des grands artistes. Mais il y a évidemment un préjugé très tenace qui tient au fait que ces malheureux Béotiens avaient pour voisins les Athéniens, qui étaient sarcastiques par définition. Mais pour moi, donc il y avait cela. Et il y avait deux autres raisons, si vous voulez. Il y en avait une qui était assez pratique, pragmatique. C'était de préparer le commentaire que je dois faire, qui est encore à achever, mais qui est proche de sa fin maintenant, pour la collection des universités de France, qui édite Pausanias le Périégète, cet auteur du IIe siècle. Plusieurs livres ont déjà paru. Moi-même, on m'a chargé de traduire et de commenter le livre neuf, les Boiotica. Et donc, c'était une façon, voilà. C'était une façon de m'y atteler et de présenter les idées que je pouvais avoir, car j'avais une connaissance précise du terrain, des inscriptions, et le commentaire, précisément, cherche à nourrir le commentaire grâce à la connaissance des réalia, si vous voulez, du terrain. Donc, l'abbé aussi m'a occupé, et mes malheureux auditeurs aussi.
2005, 2006, 2007, trois ans.
Pendant trois ans. J'avais une raison supplémentaire qui apparaîtra mieux tout à l'heure peut-être, c'est que ce pays est attachant aussi par sa contribution à l'histoire politique, à l'histoire des institutions, car c'est en fait un des berceaux du fédéralisme grec. De fédéralisme grec, même si on a du mal à leur attribuer l'invention du fédéralisme, en réalité, ils ont joué un grand rôle.
Alors, on peut quand même rester un tout petit peu sur cette édition de Pausanias, parce qu'on sait que la première édition a été publiée à Venise en 1516. Donc, je rappelle à nos auditeurs en passant que Pausanias est un voyageur, géographe, historien, écrivain du IIe siècle de notre ère et qui a fait un long voyage donc dans toute la Grèce. Ce récit permet donc de prendre un contact vivant avec les œuvres d'art, comme vous avez dit, les fresques, les mythes, les rituels religieux et sociaux. Et au fond, certains récits historiques.
Oui.
Voilà. Donc, vous avez repris à nouveau frais l'histoire de Thèbes et de Tanagra, par exemple.
Oui.
Vous avez rétabli aussi, si je me souviens bien, une géographie disparue, Skolos.
Oui. Ce qui était un peu une impasse, Skolos, parce que c'est vraiment un endroit dont les auditeurs n'avaient jamais entendu parler et n'entendront plus jamais parler de leur vie. Mais le malheureux commentateur, il est obligé de trouver la bonne, si possible, la bonne explication. Et il peut y avoir, malgré tout, un certain intérêt à suivre Pausanias et à se demander pourquoi diable allait-il dans tel endroit. Il y avait toujours une raison, néanmoins, à trouver. Il a voyagé de manière le plus souvent intelligente, en négligeant certaines choses de manière surprenante. Pourquoi est-il allé à Skolos, puisqu'on parle, je ne vais pas le répéter ici, une fois suffit, mais il y avait une nécessité géographique et historique pour cela.
Alors, il faut quand même peut-être juste ajouter ce qui est important, c'est que vous êtes en train de dire que vous allez évidemment traduire, présenter et éditer le livre neuf.
La traduction est faite, voilà. Et je tiens à dire une chose ici, c'est que cette traduction, elle était déjà largement faite avant le cours, mais après le cours et dans ces toutes dernières années, avec deux auditeurs de... âgé plutôt, mais très fidèle, j'ai repris toute cette traduction et nous l'avons aujourd'hui entièrement révisée et terminée. Donc ça, c'est un hommage que je fais à deux auditeurs.
Alors, vous avez quand même, disons, rétabli l'ordre chronologique et même logique tout court de ce récit de voyage.
Alors ça, c'est
intéressant
aussi. Préoccupation, parce que il est clair que Pausanias a voyagé d'une certaine façon, selon des modalités pratiques, et puis il a exposé son voyage. Ce sont deux choses très différentes. Mm-hmm. Il l'a fait de façon littéraire, de manière assez habile, en fin de compte, en donnant l'impression qu'il avait rayonné depuis le chef-lieu, la capitale, cette grande cité de Thèbes qui a joué un rôle si important sur le plan de la mythologie, puisque tout de même Thèbes, c'est le berceau d'Édipe, c'est le berceau d'Antigone, et des grands mythes de la Grèce ancienne. À partir de Thèbes, il a donné l'impression qu'il rayonnait, mais c'était un voyage impossible sur le plan pratique, et j'ai essayé de montrer comment il avait voyagé en réalité, dans un voyage qui a dû se faire en plusieurs, non pas plusieurs étapes, c'est évident, mais en plusieurs fois. Il est allé sans doute plusieurs fois depuis Athènes, en Béotie, il a pris des petits morceaux, comme nous-mêmes nous le faisons. Malgré nos grands moyens de déplacement, nous ne pouvons pas voir la Béotie en une fois. Il lui a fallu plusieurs excursions, grandes excursions. Et donc ensuite, il y a tout un travail de raccommodage, de couture, pour en présenter quelque chose de plus ou moins cohérent. Mais on parvient à découvrir, je me suis attelé à cette tâche, si vous voulez, les points de suture qui parfois ont abouti à l'escamotage de certains lieux ou d'un itinéraire qui n'est pas parfaitement cohérent.
Alors, Denis Knoepfler, en 2008, vous sautez vraiment un bras de mer.
Oui, un faible bras de mer.
Pour vous retrouver en Eubée.
Voilà.
Alors, c'est cette longue île qui est juste en face de la baie aussi, justement.
Oui, précisément.
Et vous parlez de Érétrie, qui est une cité importante, qui se trouve donc sur la côte occidentale de l'île de Bée.
Oui.
C'est aussi la patrie de Narcisse, je rappelle que vous avez évidemment écrit.
Selon moi, en tout cas.
Selon vous, en tout cas. Et vous connaissez évidemment parfaitement cette cité, puisque vous avez été l'instigateur des fouilles qui furent conduites par vos collègues archéologues suisses.
Alors, là, il faut rétablir un peu la vérité, non pas de l'ensemble des fouilles, parce que, quel que soit mon grand âge, au moment où a commencé la fouille en 1964, j'étais un tout jeune homme, et je ne suis arrivé à Érétrie que 2 ou 3 ans après le début. Non, si vous voulez, la mission helvétique s'est installée sur un site, je ne vais pas refaire l'histoire de cette mission, mais ça remonte à 1964. Ce que je peux me flatter d'avoir fait, entre autres travaux sur l'histoire, sur l'épigraphie, c'est d'avoir cherché depuis 1969, donc quand même depuis fort longtemps, quasiment 50 ans, et en compagnie de ma chère femme, le principal sanctuaire de cette cité, dont j'ai pu montrer qu'il n'était pas là où on croyait qu'il était, sur la base d'un passage du géographe Strabon, mais qu'il était beaucoup plus éloigné, à 10 km de cette ville. Et ce sont ces fouilles-là que j'ai l'honneur actuellement de diriger, et grâce, si vous voulez, à l'apport logistique, financier de l'école suisse d'archéologie en Grèce. Ce sont donc les fouilles d'Amarintos. Amarintos, un beau nom, vieux nom, mycénien, pré-hellénique, où s'est installé un grand sanctuaire d'Artémis dite Amaritia, et c'est au pied d'une colline préhistorique que, depuis 2007, mais il y a eu des interruptions, nous avons commencé à dégager des éléments du sanctuaire, les vestiges d'un portique, et aujourd'hui, nous avons la preuve que ce portique, ce grand bâtiment, fait bien partie du sanctuaire d'Artémis. Il nous reste à trouver le temple lui-même. Il nous faut faire des achats de terrain. Une souscription est lancée en Suisse pour cela. Et nous avons bon espoir d'aboutir.
Vous êtes en train de démontrer que tout érudit est aussi un Sherlock Holmes en puissance. Enfin, en action plutôt,
oui,
même.
Oui, d'une certaine façon, oui. Il y a toujours quelque chose, une pelote à dénouer, en quelque façon. Oui.
Grâce à ce cours, on a aussi pu comprendre bien mieux, d'ailleurs, ce qu'était au fond une cité grecque. Alors moi, j'aimerais vous demander, au fond, ce que c'est qu'une cité pour les Grecs de l'Antiquité.
Oui, oui, c'est une question. Alors, je crois que vous avez raison en disant c'est un bel exemple de cité grecque. Parce que on peut voir qu'une cité grecque, ça n'est pas seulement une ville. Ça n'est pas seulement une ville.
Hein.
C'est un peuple, un territoire. Et dans le cas d'Érétrie, précisément, ce à quoi je m'attache depuis des décennies, maintenant avec deux plus jeunes, et c'est pour moi très important d'avoir à mes côtés de plus jeunes archéologues historiens qui continuent, mais de montrer qu'il y a un territoire qui, en l'occurrence, est particulièrement bien connu. Et donc, plutôt, on peut se représenter assez clairement la structure. Une structure extrêmement subtile qui, pour le moment, n'a guère de parallèle qu'à Athènes. C'est-à-dire un corps civique qui est subdivisé, qui est réparti dans des tribus, lesquelles sont encore subdivisées avec des villages qui apparaissent dans nos inscriptions. Nous ne sommes pas totalement au clair. Il y a des lacunes encore dans cette construction, mais c'est un territoire suffisamment étendu pour qu'on puisse se représenter comment vivait une communauté dont la plupart des habitants étaient à la campagne, mais bien qui sûr. Se déplaçaient pour aller voter. Et chaque mois, plusieurs assemblées. Il y avait donc une espèce de vie, si vous voulez, comme dans une circulation sanguine entre le cœur et les éléments du corps, des distances considérables, des sanctuaires. Et ce sanctuaire d'Amarynthos, c'est sans doute le plus important, mais il y en avait d'autres. Et nous sommes déjà en piste pour les autres. Probablement que je ne verrai pas la fin de cette entreprise, mais il y a donc sur des kilomètres et des kilomètres un espace subdivisé dont on commence à mieux comprendre le fonctionnement.
Vous êtes en train de nous dire que la Grèce n'a pas été complètement fouillée, finalement.
Ah non, Dieu merci, non, non.
On sait qu'il y a des chantiers à Chypre.
Oui, non, mais la Grèce, il est clair qu'elle n'est pas entièrement fouillée. Il n'empêche que, probablement, que le nombre des grands sanctuaires, je veux dire les grands sanctuaires qui nous sont connus par ailleurs à travers les sources littéraires ou à travers les inscriptions, dont on connaît l'existence, les noms, ceux-là, il commence à se faire un peu rare, peut-être, en Grèce propre. Et c'est ce qui fait l'intérêt et l'enjeu considérable sur le plan grec en général, et pas seulement pour l'île de Bé, de la recherche que nous faisons actuellement sur le sanctuaire d'Amarynthos. Parce que nous pouvons dire, voilà, c'est un des derniers grands sanctuaires connus que l'on cherche et que l'on est en passe de trouver. Et donc, ça a un intérêt très particulier.
Alors, Denis Knoepfler, on a sauté tout à l'heure un peu sur le premier cours qui était un cours de, comment dirais-je, de mise en bouche en quelque sorte.
Oui, de mise en train pour moi en tout cas. Bon.
Mais en même temps, dont vous disiez qu'il avait un impact important sur le cours qui a eu lieu en 2009. Je rappelle que c'était votre premier cours porté sur Lycurgue. En 2009, vous donnez un cours important sur le fédéralisme antique et sur le renouvellement des confédérations hellénistiques sous la domination de Rome. Alors ça, c'est un cours donc, qui prépare également les quatre années suivantes.
Oui, toujours une transition.
Il y a toujours une transition, effectivement, qui seront consacrées à Athènes pendant la période hellénistique. La Grèce, on sait, est le lieu d'invention des catégories politiques qui sont toujours les nôtres.
Oui. Hein.
La démocratie, la monarchie, la tyrannie, le fédéralisme, la république, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands moments de ce cours ?
Oui, donc par rapport au cours de 2008 sur la cité d'Érythrée, il y avait un changement d'optique, un élargissement à une forme politique, une forme d'État qui, d'une certaine manière, appartient au bagage politique grec, mais d'une autre, a été longtemps ignoré. Si vous regardez, par exemple, la Bible en matière d'institutions politiques ou de philosophie politique, c'est-à-dire Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, il ne connaît pas le fédéralisme. Il n'a rien à dire sur les... Parce que c'était quelque chose qui était en train de naître et il y a eu de fortes réserves, de fortes réticences contre cette union des cités. Et ça n'a pris que dans certaines parties du monde grec. Et par exemple, Athènes est toujours restée en dehors de toute confédération.
C'est normal.
C'est normal, mais elle était très isolée vers la fin du IIIe siècle. Et certainement qu'il y avait dans l'opinion publique des gens qui étaient peut-être favorables à une union avec un grand État fédéral comme les Achéens dans le Péloponnèse. L'histoire de la Grèce en aurait peut-être été changée. Mais Il est de fait que certaines cités sont restées totalement en dehors. Et dans certaines régions, comme l'île de Bé, ça n'a pris que très médiocrement. Il y a une confédération EBN, mais les conditions géographiques, cette longue île, ne se prêtaient guère à une union politique. Tandis qu'au contraire, en face, il y avait, depuis la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, une confédération que l'on connaît relativement bien, dominée par Thèbes longtemps. Donc une confédération qui est à certains égards viciée par une cité impérialiste. Mais avec le temps, lorsque cette cité de Thèbes a été en quelque sorte très durement traitée, puis évincée pendant longtemps, se crée une véritable confédération sur une base, si vous voulez, égalitaire, ou plus exactement, et c'est toute l'invention peut-être des Béotiens, sur une base proportionnelle. Parce que c'est très joli que d'affirmer que toutes les cités seront unies, mais elles sont de tailles très différentes et il serait injuste qu'elles aient toutes les mêmes charges et les mêmes prérogatives. Donc, il s'est agi, et ça, ça a été un élément très important de la réflexion politique dans ces confédérations, de trouver le moyen d'une représentation proportionnelle. Ce n'était pas totalement étranger à la cité d'Athènes ou à de grandes cités comme Érythrée aussi, parce qu'il fallait bien que dans les conseils, il y ait une certaine représentation en fonction de votre domicile, du fait que vous étiez dans tel village, et que le conseil soit représentatif de l'ensemble de la communauté politique. Mais là, ça s'est fait à une autre échelle. Il a fallu trouver le moyen de donner aux différentes structures la représentation conforme à leur poids. Alors, un des aspects que j'ai traité en 2009, j'ai voulu montrer par ailleurs comment ces confédérations s'étaient profilées face à Rome et dans quelle mesure elles avaient été finalement, pour beaucoup, très hostiles à Rome, parce qu'elles représentaient, au moment de la conquête romaine au IIe siècle, les principales forces de résistance. Les Romains ont dû traiter d'égal à égal au début avec ces grands états fédéraux tels que les Achéens dans le Péloponnèse, les Étoliens qui étaient solidement implantés dans toute la Grèce continentale et du Nord-Ouest, les Béotiens qui ont pesé lourdement également. Donc ces confédérations ont souvent payé un lourd tribut et ont été pour la plupart totalement supprimées, dissoutes par le pouvoir romain. Ça a été sanglant, on peut dire. Alors qu'Athènes a tiré son épingle du jeu, d'une certaine manière. Les petites cités
Avec beaucoup d'astuces,
oui. Le fait d'être indépendante lui a donné une marge de manœuvre peut-être plus grande. Et c'est dans ce cours que j'évoque rapidement quelques leçons que j'ai consacrées à une confédération beaucoup plus exotique, si l'on veut, en Asie mineure, où l'esprit fédéral ne s'est pas énormément développé. Il y a quelques exemples, mais les cités étaient assez prospères, donc plus indépendantes, si vous voulez, que dans la vieille Grèce. Mais il y a eu un cas tout à fait intéressant, parce qu'il a eu un écho dans la philosophie politique moderne, c'est le cas des Lyciens.
Oui.
Car les Lyciens ont eu le curieux honneur d'aboutir chez Montesquieu, à la surprise générale, ce qui s'explique du fait que le géographe Strabon, à l'époque d'Auguste, a laissé une page extrêmement précise des institutions de cette communauté lycienne qui se trouve donc sur la côte sud de l'Asie mineure, si vous voulez, au-delà de Rhodes, en direction de la Syrie, confédération lycienne qui s'est développée surtout au IIe, Ier siècle, qui a subsisté alors encore. Strabon, grâce à un auteur un peu plus ancien, est capable de faire un tableau un peu idyllique, sans doute, mais très précis sur la manière dont les cités lyciennes sont représentées dans leur conseil commun en fonction de la taille des diverses cités, avec un système tout à fait simple, mais qui a fonctionné, où les grandes cités étaient représentées trois fois plus que les petites, et les moyennes, elles étaient représentées deux fois plus que ces petites. Donc 3, 2, 1. Et qui s'appliquait à toutes les institutions. Montesquieu, au XVIIIe siècle, a été emballé, on peut le dire familièrement, ce modèle qu'il a découvert très tardivement. J'ai pu montrer que au moment où il composait l'esprit des lois, il ignorait complètement la Confédération lycienne. Il n'avait pas lu ce passage de Strabon. Il devait se contenter, pour illustrer ce qu'était un État fédéral au XVIIIe siècle, ça ne courait pas les rues. Bon, il devait se contenter de la Confédération suisse, pour laquelle il n'avait pas une estime considérable, et où les provinces unies des Pays-Bas. Tout d'un coup, il découvre, de façon directe ou indirecte, il découvre Strabon, il est enthousiaste, il introduit la Confédération lycienne dans l'esprit des lois et il la déclare la meilleure possible. Un modèle d'une belle république fédérative, dit-il. Et à partir de ce moment, les lyciens sont entrés dans l'histoire, en quelque sorte, vous voyez, et ont été repris dans l'encyclopédie de Diderot. C'est devenu une espèce de modèle d'État fédéral. Et ensuite, on a un peu déchanté pour des raisons dans lesquelles je ne peux pas entrer ici, mais c'est resté un modèle dans l'histoire politique. Modèle corrigé aujourd'hui par une foule d'inscriptions qui ont permis de reconstituer largement l'histoire assez chaotique de cette confédération au IIe siècle, qui a subi toutes sortes de vicissitudes et qui n'a pas du tout été l'état utopique, idyllique de Montesquieu. Et en plus, je vais m'arrêter là, ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce que j'ai essayé de montrer dans un article du Journal des Savants en 2013, c'est que les lyciens, en réalité, ne sont pas les inventeurs. Ne sont pas les inventeurs de ce système proportionnel remarquable. Ils l'ont emprunté tout simplement à la Confédération achéenne. Nous le voyons aujourd'hui grâce à des documents nouveaux. Nous ne savions pas, malgré tout, le prestige de cette Confédération en raison de Polybe l'historien, qui était très enthousiaste de sa propre...
Bien sûr.
Et qui a montré avec beaucoup de talent et parfois beaucoup de partialité l'excellence de la Confédération achéenne. Mais aujourd'hui, donc, on doit renverser les perspectives. Ce sont les Achéens qui ont été le modèle direct des Lyciens. Et en réalité, c'est une espèce de pirouette finale de ma part, j'essaye de montrer que les Achéens, en fait, se sont inspirés des Béotiens. Ces Béotiens que Montesquieu considérait comme les plus épais de tous les Grecs. Ce sont eux qui ont découvert le système proportionnel.
Ce qui est intéressant de Nick Knopfler, c'est qu'on voit très bien que même si les formes sont tout à fait obsolètes, inadéquates, etc., ce qui reste vivant, c'est cette invention systématique de formes politiques nouvelles.
Ça intéressait passionnément les Américains au XVIIIe siècle, au moment de constituer leur État fédéral.
Ils lisaient
Montesquieu et leurs publicistes, comme on les appelait, ils discutent la Confédération lycienne. Ça les intéresse au premier chef.
Ils
le font à travers Montesquieu, qui lui-même s'appuyait sur Strabon, lequel empruntait cette description à un géographe qui s'appelait Artémidore. Vous voyez donc toute une tradition qui...
C'est une question très cruciale actuelle aujourd'hui, de se demander quelle forme politique nouvelle on pourrait inventer.
C'est un grand problème au moment où, on ne va pas s'égarer dans ce domaine,
mais
au moment où on discute justement de l'euro, et on voit bien que cette monnaie ne peut pas tenir... Tant qu'il n'y aura pas un véritable État fédéral, le fédéralisme est une question cruciale du moment.
Et la Grèce pourrait nous servir plusieurs modèles.
Je ne dirais pas que nous devions prendre modèle sur la Grèce économique.
Cette idée
qu'un État fédéral doit faire une juste part à chacun des membres qui ne sont pas tous égaux du point de vue de leur poids, c'est clair.
De Nick Knopfler, les quatre années qui suivent, donc 2010, 2011, 2012 et 2013, seront consacrées à l'examen du livre de Christian Labitch qui faisait le dernier point sur l'Athènes hellénistique, que vous avez traduit avec votre épouse Martine Knopfler pour les belles lettres. La dernière édition revu et corrigé du livre est paru en 2006, peu de temps avant ses cours qui commencent donc en 2010. En 4 ans, un grand nombre de points étaient déjà complètement obsolètes. Alors, on pourrait peut-être lister ces points, Denis Knopfler, si vous le voulez bien. Pas tous, bien sûr. Mais enfin, vous pourriez nous en rappeler quelques-uns, au moins les plus importants, peut-être.
Oui. Ce n'est pas facile parce que c'est une histoire assez morcelée. Disons, premier point, c'est donc, vous avez parlé d'un examen, d'un réexamen. Je dirais que c'est un examen de l'intérieur. Ce n'est pas un examen critique à l'égard de Christiane Habicht.
Vous l'avez traduit, donc.
Donc, pour nous, ça a été un peu notre livre d'une certaine façon parce que nous avons traduit et nous avons collaboré, discuté avec l'auteur qui est toujours en vie, Dieu merci.
Et qui est un homme magnifique,
d'ailleurs. Et qui était un grand savant, un des plus grands, certainement, de cette seconde moitié du 20e, début du 21e. Et si j'ai commencé à parler d'Athènes hellénistique en 2010, c'était aussi, vous l'aurez sans doute compris, pour rendre hommage à ma femme disparue.
Bien sûr.
Puisqu'elle avait fait un gros travail de traduction, moi-même corrigeant ou apportant, disons, mon expérience d'historien et d'épigraphiste. Et au début, je ne savais pas pendant combien de temps j'allais être retenu par Athènes hellénistique. Mais il s'est avéré que, sans être caduque, loin de là, mais il y avait toutes sortes d'éléments nouveaux. Soit qu'il fallut rectifier certaines des conclusions en fonction de travaux nouveaux, soit qu'il y ait des documents inédits. Et j'ai tiré parti de tout ce qui se faisait à ce moment-là, et surtout à partir de 2011-2012, du fait que beaucoup d'inscriptions ont été reprises dans des recueils, de grands recueils épigraphiques, qui étaient pour moi l'occasion de les revoir sur un plan critique.
Oui, ce qui a été publié à Berlin, c'est ça ?
Les grands corpus de Berlin. Voilà. Ça a été
écrit en latin, d'ailleurs.
Alors, selon la meilleure tradition de l'érudition, qui
philologie
est sobre,
allemande.
Philologie allemande, philologie européenne aussi, il faut bien le dire,
sûr.
Et qui a ses, inconvénients,
mais
qui a aussi
ses
avantages, des commentaires sobres, qui sont accessibles à tous les érudits. Il n'y a pas de langue imposée, c'est ce bien commun qu'est le latin. À certains égards, beaucoup d'égards, c'est très défendable.
C'est même politiquement intéressant.
Ah oui, c'est politiquement intéressant. Malgré quelques réticences, j'y suis assez favorable pour ce genre de recueil, naturellement. Il ne peut pas, on ne va pas revenir au latin d'une manière complète. Mais ça a été l'occasion donc de progresser de façon souvent minutieuse, peut-être difficile, j'en ai conscience pour mes auditeurs, mais qui étaient conviés également au séminaire où nous lisions les inscriptions. Ça leur a permis, je prends un exemple, entre beaucoup, nous avons pu bénéficier, grâce à l'inventeur, l'archéologue grec Petrakos, un excellent savant, nous avons pu bénéficier de décrets inédits qui émanaient d'une garnison macédonienne et en même temps athénienne de Ramnonte, dans un poste clé du territoire de l'Attique. De beaux décrets, tout à fait nouveaux, qui amenaient forcément bien des éléments intéressants, montrant par exemple qu'un des stratèges mis à la tête de la garnison avait eu à affronter des pirates. À un certain moment, il fallait donc comprendre quels événements se cachait derrière cette mention, parce que, comme toujours dans les documents, une des tâches essentielles de l'historien, c'est de comprendre et de dater. Parce qu'un document qui n'est pas daté, il perd la moitié de son apport.
Justement, là, c'est comme un vaste puzzle.
C'est un puzzle. Et la chronologie des archontes, des archontes d'Athènes, c'est un domaine de spécialistes. Et j'avais
C'est un peu aussi ennuyeux que les chronologies dans la Bible.
J'avais scrupules. Oui, mais seulement, le problème,
c'est que
les chronologies dans la Bible, vous en faites ce que vous voulez, ça n'est pas peut-être essentiel pour établir l'histoire.
Tandis que
ce sont des magistrats qui donnent leur nom à l'année. Donc, il est, en fin de compte, essentiel de pouvoir les classer. Alors, j'avais fait un cours où j'ai essayé d'introduire un peu d'humour au milieu de ces archontes, parce que je sais que c'est un sujet des plus austères. Mais j'ai dit, en fait, être archonte à Athènes, c'est magnifique. C'est magnifique parce que vous êtes garanti d'avoir votre nom à jamais inscrit et que l'on parle de vous 2000 ans plus tard, sans que vous ayez le moindre mérite, puisque c'était une charge qui était tirée au sort, que vous n'aviez pratiquement aucun devoir, mais que, en fin de compte, l'histoire allait se faire à partir des mentions de votre nom dans tel ou tel document, parfois d'importance majeure. Un des points sur lesquels j'ai insisté, ou plutôt, d'une manière générale, j'ai essayé d'insister sur les tournants.
Oui.
Et l'un des plus importants, c'est celui de 229 avant Jésus-Christ, au moment où la cité, après des décennies de domination macédonienne, parce qu'Athènes a souffert, hein. Athènes n'a pas toujours, je disais tout à l'heure qu'elle avait tiré son épingle du jeu, mais de manière très relative,
oui.
Elle a aussi subi la domination, la présence de garnisons, ça a été de dures et de sombres années. En 229, dans des circonstances que je ne vais pas évoquer ici, elle se libère et elle retrouve peu à peu sa pleine autonomie. Il y a une véritable renaissance d'Athènes qui la mettra en position, d'une certaine façon, d'accueillir Rome le moment venu, si l'on peut parler d'accueil, parce que c'était problématique, mais dans une position très isolée qui lui a valu aussi pas mal de coups venant de ses voisins, venant surtout du roi de Macédoine. Athènes n'a pas une histoire tranquille, et ce qui me paraissait le plus important, c'est de montrer que Athènes n'avait pas démérité, que
oui, ça
n'était pas devenu une
cité collabo.
Non, d'abord, et puis que ces institutions démocratiques, quand on évoque la démocratie athénienne, on pense toujours à l'époque de Périclès, mais en un sens, c'est le pire des exemples. Parce que la démocratie athénienne, à ce moment-là, c'est une démocratie impérialiste qui vit largement sur le dos des autres, par l'Empire. Alors qu'à partir du IVe siècle, elle doit faire avec les moyens du bord. Et à l'époque hellénistique, elle est une grande cité, certes, mais une cité comme les autres. Ce que montrent les inscriptions, de la manière la plus décisive, c'est que les institutions démocratiques fonctionnent. Et ça, quel État peut se prévaloir d'un régime qui a duré des siècles, hein, et d'une stabilité, malgré tous les à-coups, quelques révolutions oligarchiques, de mainmise de Macédoine, quel État peut se prévaloir de siècles de permanence institutionnelle?
C'est vrai.
C'est extraordinaire.
Même
pendant
dans le monde moderne.
Quasiment
hein.
Un demi-millénaire de démocratie qui, avec des à-coups, mais change peu, avec une participation qui est forte. Oui, ça c'est un des apports essentiels. Je ne veux pas évoquer d'autres choses, le tournant de 167, l'acquisition pour Athènes, qui a été une chose très importante. On parlait d'impérialisme tout à l'heure. Chez les Athéniens, il y a toujours eu un relent impérialiste. Ils ont toujours regretté le temps de leur gloire. Et chaque fois que la possibilité a existé pour eux, ils ont, et en profitant de Rome, Rome leur accorde en 167, lorsque le roi de Macédoine est éliminé et que les souverains hellénistiques sont en perdition, leur accorde des possessions étrangères, et notamment, ce qui était capital, l'île de Délos, qui va être une plateforme commerciale dans la mer Égée et dont ils tireront, au moins pendant quelques années, de grands bénéfices. Voilà quelques aspects de cette histoire athénienne. Je pense qu'en fin de compte, les auditeurs qui la connaissaient mal, ont dû en tirer, j'espère, quelques profits.
Oui, on s'aperçoit d'ailleurs, justement, grâce à vos cours, d'ailleurs, que l'épigraphie est une science extrêmement neuve et magnifique et pleine d'avenir même.
Bah parce qu'elle apporte, elle se renouvelle de façon très régulière, oui. Et elle apporte du sang neuf. Elle apporte du sang
C'est-à-dire
neuf, obligeant
plus
à revoir à chaque fois ce que l'on connaissait. Parce que
C'est
quand
ça,
vous
ouais.
mettez un élément nouveau dans un jeu, les autres pièces en sont bousculées.
Bien sûr.
Nécessairement.
Vous pensez qu'on a autant de chances aussi de retrouver des textes que de retrouver ces inscriptions sur les pierres?
Bon, il est clair que pour ce qui est d'Athènes, on a trouvé déjà beaucoup, beaucoup de choses. Et il faudrait étendre des fouilles à d'autres secteurs du domaine public. Pendant 50 ans, c'est l'Agora fouillé par les Américains, qui a produit des textes extraordinaires. Actuellement, les fouilles sont un peu plus disséminées, un peu moins systématiques. C'est aussi peut-être l'effet collatéral de la crise économique, parce que les fouilles coûtent cher. Mais bon an, mal an, et je dirais que pour Athènes, il y a des centaines et des centaines d'inscriptions inédites qui dorment encore dans les réserves.
Ça.
Mais là, c'est une autre question.
Si je comprends bien, la Grèce antique est devant nous.
Oui, il y a certainement, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas. Et encore une fois, Athènes est un cas qui restera exceptionnel, mais il y a par exemple toute la Grèce du Nord, la recherche ne s'y est développée que fort récemment, disons depuis 50 ans. C'est une page nouvelle dans l'historiographie grecque. Donc il y a encore beaucoup à espérer.
Denis Knopfler, votre dernier cours, je dois dire, est une splendeur et j'invite tous les auditeurs à l'écouter soit sur le site de France Culture, soit sur celui du Collège de France. Il s'intitule « L'empereur Adrien et les cités grecques, état des lieux après un demi-siècle de découvertes épigraphiques majeures ». Donc c'est toujours le même procédé, c'est-à-dire que vous confrontez un savoir aux découvertes les plus récentes pour renouveler ce savoir. Mais là, vous avez choisi de confronter justement l'érudition la plus vivante, la plus actuelle et la plus pointue avec un roman qui a été d'ailleurs en son temps fort décrié par les historiens.
De quelle manière, oui.
Qui est donc celui écrit par Marguerite Yourcenar, intitulé « Mémoires d'Adrien », qui a été publié donc en 1958.
Ou à peine avant.
C'est un portrait d'ailleurs subtil et émouvant que Marguerite Yourcenar livre d'Adrien. J'ai pris justement ce prétexte pour relire le roman. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Impossible à lâcher d'une certaine manière.
Ça a été peut-être le cas de quelques auditeurs
ça, je l'espère,
également d'y revenir. Parce qu'il est clair qu'il s'agit maintenant d'un classique. Mais les classiques ne sont pas forcément connus et lus. Et ça a été éventuellement une incitation à le faire. Oui, mon but primordial était de faire connaître, pour un domaine particulier de l'histoire qui n'était pas tout à fait, au sens strict du terme, le mien, c'est-à-dire qui m'a obligé à aller vers l'époque impériale, à une autre échelle que les cités, fussent-elles de la taille d'Athènes, vers l'Empire, vers un empereur, à une époque déjà relativement avancée par rapport à mon champ habituel. Mais il y avait une telle masse de documents nouveaux qu'il m'a paru que c'était un cas d'école, si vous voulez, de montrer que pour une vingtaine d'années, le règne d'Adrien, qui est court, hein, entre 117 et 138, on avait, en l'espace de 50 ans, après la publication des mémoires d'Adrien, un enrichissement exceptionnel de textes dont certains sont des choses auxquelles on n'aurait même pas pu songer. Je pense par exemple aux lettres qu'Adrien envoie aux associations d'artistes. En l'an 134, au moment où éclate, où se développe la guerre en Judée, il y a toute une correspondance, des lettres très instructives sur l'organisation des concours et à l'échelle de l'Empire, en tout cas de toute la partie orientale hellénophone de l'Empire. Mais secondairement, très rapidement s'est imposée aussi à moi l'idée d'établir une confrontation avec Marguerite Yourcenar, comme vous l'avez rappelé. À la fois, il ne s'agissait pas d'écraser Mémoire d'Adrien par un flot d'érudition pour montrer qu'elle aurait mal saisi cette figure. J'étais très loin de cette idée-là. C'était de montrer deux choses. D'abord, qu'elle avait elle-même étudié les inscriptions, toutes celles auxquelles elle a pu avoir accès, et de façon remarquable, ce que le lecteur n'aperçoit pas nécessairement, parce qu'elle n'étale pas son érudition. On voit qu'elle connaît certaines choses, et si vous regardez les choses de près, vous constatez qu'elle n'a pu connaître ces éléments, ces noms propres, ces endroits, ces mesures impériales, qu'à travers des inscriptions. Donc, secondairement, c'était de me dire, avec mes auditeurs, qu'aurait-elle fait des documents venus après Mémoire d'Adrien. Parce que s'il y a une chose que je puis affirmer, c'est qu'elle elle se serait attachée à les lire, elle aurait fait cet effort, elle aurait même fait cela avec passion. Et est-ce que ces documents allaient renforcer sa vision ou au contraire nous obliger à la nuancer? C'est-à-dire que l'empereur, la figure qui ressortait des inscriptions, était-elle bien celle de Marguerite Yourcenar? Voilà. Et disons que, en gros, je crois que on peut dire que grâce d'une part à son érudition, d'autre part à sa extraordinaire intuition. Je sais pas s'il faut parler d'intuition féminine là, mais en tout cas sa sensibilité, sa capacité à entrer dans la peau de cet homme pour comprendre comment il avait été amené à agir, fait que on peut dire que cet Adrien cultivé, cet Adrien philhellène, cet Adrien architecte qu'elle aime à mettre en évidence, c'est bien celui que nous font voir les nouvelles inscriptions. Il y a une inscription sur laquelle je me suis attaché en particulier et un peu in fine dans ma dernière leçon, parce que j'avais un rapport quasi personnel avec ce document. C'est un document du Louvre. C'est
absolument
une très belle plaque de bronze.
Ignorée par tout le monde.
Ignorée par tout le monde pendant longtemps.
Alors qu'elle est sous nos yeux, enfin.
Oui. Sur ce point, j'avais quelques réserves à faire. Mais elle sera un jour certainement exposée. Elle a d'ailleurs voyagé. C'est d'abord par son support, quelque chose de tout à fait insolite, une grande plaque de bronze qui a été trouvée de façon, hélas, clandestine, mais on peut être sûr qu'elle vient d'une région de la Grèce qui s'appelle la Locride, d'une petite cité qui s'appelait Narica, perdue dans les montagnes de Locride, c'est-à-dire, si vous voulez, pas très loin de Delphes, enfin vers à l'est de Delphes, entre Delphes et le B. Et on voit Adrien répondre à ces gens de Narica, qui avaient interrogé l'empereur, qui avaient consulté l'empereur, très certainement, les rassurer d'une certaine manière en leur disant « Vous méritez l'autonomie de votre cité. Vous avez droit à être une cité, une véritable cité, car vous appartenez à de grandes institutions ou associations de cités qui attestent en quelque sorte votre qualité de polis, de cité. Hein. » L'Amphictyonie de Delphes, le Koinon, la Confédération des Béotiens, le Panhellénion, chose très importante,
oui,
parce que le Panhellénion, c'est une création d'Adrien lui-même. À Athènes, en 131, il met sur pied une association remarquable de toutes les villes qui sont véritablement grecques, qui ont en quelque sorte un brevet d'hellénisme, c'est-à-dire toutes les cités grecques de Grèce propre, mais aussi beaucoup de l'Anatolie, de l'Afrique, de la Libye, de la Syrie, dans la mesure où elles peuvent faire la preuve qu'elles sont de bonnes souches helléniques. Alors, il y a toutes sortes de recherches là-dessus, on n'en a pas la liste complète. Mais le Panhellénion, donc, existe à partir de ce moment, et ces gens de Narica, ils appartiennent au Panhellénion. Ils peuvent s'en prévaloir. Et Adrien ajoute quelque chose qui est extraordinaire, totalement inattendu, de la part d'un empereur, et qui permet de penser qu'il est vraiment l'auteur de cette lettre, que ces lettres ne sont pas simplement sorties de la chancellerie impériale, parce qu'il y avait tout un bureau pour un empire. Il y avait une administration, les lettres grecques, les lettres latines. Mais là, on a la marque de cet Adrien cher à Marguerite Yourcenar, puisque Adrien dit, en plus, les poètes grecs et les poètes romains vous mentionnent dans leurs œuvres, vous les gens de Narica, c'est donc la preuve que vous existez, que vous avez une identité culturelle, que vous méritez pleinement de rester une cité, de ne pas être absorbé par une autre.
C'est beau, ça. Hein.
Et pourquoi sont-ils mentionnés, ces gens de Narica, dans les œuvres littéraires à partir de l'époque hellénistique, Callimaque, puis ensuite Virgile, Ovide, de grands auteurs? C'est qu'ils sont la patrie, ils sont la patrie d'un héros dont la réputation est certes un peu sulfureuse, c'est Ajax le Petit qui s'est fait connaître mal comme le grec qui s'en prend à la malheureuse Cassandre, hein, allant jusqu'à la violer, et c'est une malédiction qui va demeurer sur eux. Et donc, et le paradoxe, c'est que Adrien prend leur défense au nom de ce héros malfamé qu'était Ajax, qui a été l'adversaire des Troyens, et s'il a été l'adversaire des Troyens, il a été l'adversaire des Romains, dans la mesure où les Romains se considèrent comme les descendants d'aînés et des Troyens, malgré tout, vu l'éclat littéraire d'être descendant d'Ajax, c'est quand même pas rien, même si Ajax est un mauvais garçon. Et on va leur pardonner à ces gens de Narica. Ils sont la patrie d'Ajax, tout de même. Et voilà pourquoi les poètes les ont mentionnés, et voilà pourquoi Adrien utilise cet argument totalement inattendu. Parce qu'un empereur n'avait pas à se soucier de la façon dont les poètes voulaient mentionner tel peuple. Il en tire argument, ajoutant à d'autres raisons, pour leur assurer à l'avenir l'autonomie.
On aimerait bien lire les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, préfacées par vous.
C'est-à-dire que on ne va jamais y toucher.
Non, mais bien sûr.
Et il n'y aura mais pas
vous
de.
Vous pourriez en faire une préface.
Peut-être, mais d'une manière ou d'une autre, j'écrirai quelque chose là-dessus. Ouais. Il est clair que ces mémoires restent une œuvre classique. On peut simplement considérer que l'avenir lui donne en quelque sorte raison. La documentation postérieurement mise au jour va tout à fait dans son sens. C'est pourquoi, en fait, je m'étais permis, de manière un peu impertinente, de faire un pastiche de Marguerite Yourcenar à la fin de mon cours, en montrant un Adrien qui, justement, rend compte au destinataire des mémoires, c'est-à-dire au jeune Marc Aurèle, qui est son petit-fils. Il s'adresse toujours à lui. On l'oublie un peu quand on
cher
dit...
Cher Marc.
Alors, mon cher Marc. Et donc, j'ai comme ajouter un post-scriptum de façon bien prétentieuse à mémoire d'Adrien. Mais parce que j'avais le sentiment que si Marguerite Yourcenar avait pu connaître ce document, elle aurait à coup sûr tiré parti de cette inscription.
On espère vous lire très bientôt, Denis Knopfler. On est triste de ne plus vous entendre. Mais
un grand
merci pour cet entretien que vous avez bien voulu nous donner.
Avec le plus grand plaisir et reconnaissance.
Merci.
En ce qui concerne Adrien, sa sagesse est essentiellement humaniste. Je veux dire par là qu'elle est une sagesse basée sur la confiance en la raison humaine, en la capacité de l'homme de concilier les contraires, sur l'action. Dès le début, l'empereur nous dit qu'il se définit par ses actes et que bien qu'il y ait entre ses actes et lui un certain écart, c'est cependant par eux qu'il durera dans la mémoire des hommes. Et il accepte cet écart, il accepte le fait qu'au fond, telle ou telle période de sa vie, si importante qu'elle ait pu être dans l'histoire, n'est peut-être pourtant pas essentielle pour lui. Il lui arrive même de dire « il me semble par moments peu important d'avoir été empereur ». Et pourtant il est, et il est essentiellement empereur, il le restera avec une espèce de fidélité de grand fonctionnaire jusqu'à la fin de ses jours. J'irais même jusqu'à dire qu'il y a dans cette espèce d'attachement à l'action, de sentiment de l'obligation envers l'action et la réflexion claire, et en même temps de détachement tranquille à l'égard de celle-ci, quelque chose qui me rappelle assez la sagesse hindoue. Par exemple, le conseil que Krishna donne dans la grande épopée hindoue aux guerriers de lutter sans espérer quoi que ce soit des fruits de son action. Adrien en arrive là assez vite. Il fait son métier d'empereur et il accepte même de n'être qu'un nom dans la série impériale et se confie aux hommes qui viendront après lui pour corriger ses œuvres, pour faire aussi bien que lui, ou peut-être même plus mal, tout cela étant une partie de l'ordre des choses.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain avec Jean-Marie Tarascon, titulaire de la chaire de chimie, du solide et de l'énergie. Belle journée à tous. À l'écoute de France Culture.